France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'histoire du gang des postiches. De 1981 à 1986, des braqueurs dévalisent des banques en équipe. Signe particulier, postichés, grimés, maquillés et déguisés en rabbins, en diplomates russes, en bourgeois du 16e arrondissement ou en loden genre Nouvel Ops. Pragmatique, sachant que les agences bancaires ne gardent plus beaucoup d'argent dans leur coffre et sont de plus en plus sécurisées, les postiches s'attaquent à une nouvelle cible, les petits coffres des particuliers remplis de lingots d'or, de bijoux ou de liasses. À la fois imprévisibles et professionnels, ces braqueurs font les choux gras de la presse. Et les postiches s'attirent même la sympathie de l'opinion publique, car après tout, il n'y a pas mort d'homme. Enfin, au début. Braquage après braquage, ces Robin des Bois du hold-up accumulent un butin de plusieurs dizaines de millions d'euros d'aujourd'hui. Et puis, dit-on alors, l'argent qu'ils volent, c'est celui que cachent les riches pour ne pas payer d'impôts. D'ailleurs, en entrant dans les banques, à chaque braquage, le gang crie « contrôle fiscal » au lieu de « hold-up ». Mais qui sont-ils au fait, ces gangsters si particuliers? Combien sont-ils? Appartiennent-ils au milieu du grand banditisme? L'argent sert-il au terrorisme d'extrême-gauche? Qui se cache derrière le masque? Notre invitée aujourd'hui, Patricia Touranchot, journaliste et autrice de deux ouvrages, Les Postiches, un gang des années 80, publié chez Fayard, et Le Magot, édité au Seuil. Elle a également adapté cet ouvrage en série documentaire, intitulée Le Magot, et diffusée sur Canal+. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Adrien Morat, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Stéphane Combe.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Jeudi 27 février 1975, Paris, avenue de la République, 16h. Trois hommes pénètrent dans la Société Centrale de Banque, le visage masqué par des bas nylon. Ils braquent le caissier, c'est un hold-up. L'employé n'hésite pas à déclencher l'alarme. Il est aussitôt abattu par l'un des trois braqueurs qui ramasse l'argent et tente de rejoindre leur Austin Mini garé en double file devant la banque. Mais des policiers sont déjà là et ouvrent le feu sur les braqueurs. L'un d'eux, Alain Lacabane, 25 ans, est touché. Il s'effondre sur le trottoir. Les deux autres malfaiteurs se retranchent dans l'agence. C'est l'une des premières prises d'otages de l'histoire dans une banque. La nouvelle fait la une du journal du 19h sur France Inter.
Hold up avec prise d'otage en plein cœur de Paris, près de la place de la République, dans une succursale de la Société Centrale de Banque. C'est l'événement dramatique qui se déroule depuis 16h30 cet après-midi.
Un large périmètre de sécurité déployé par la police. Les deux voleurs sont cernés. À l'intérieur, il y a 5 otages, 2 hommes et 3 femmes. Le procureur et les hommes de la brigade anti-gang tentent d'établir un contact avec les ravisseurs. Il s'agit avant tout de protéger la vie des otages et d'obtenir la reddition des gangsters. Classique. Et c'est le célèbre commissaire Broussard qui est à la manœuvre. Mais un journaliste de l'agence centrale de presse devance la police et appelle directement les deux braqueurs. Écoutez bien cette archive. Il enregistre la conversation.
Quel âge avez-vous, vous et votre camarade ?
Moi, j'en ai 20.
Vous avez 20 ans et lui, là ?
23.
D'accord. Et pourquoi vous avez fait ça ?
Ben, pour de l'argent, évidemment.
Pour de l'argent ? Vous ne travaillez pas ?
Hein ?
Vous ne travaillez pas ?
Ben non.
Ou est-ce que vous avez des solutions pour vous en tirer ?
Ah oui, j'espère.
Vous espérez, mais enfin, est-ce que vous comptez garder encore des otages quand vous partirez en voiture ?
Ah ben, on les emmène, bien sûr.
Vous allez les emmener et vous comptez en emmener combien ?
Ben, tous les quatre.
Tous les quatre dans une seule voiture, mais ça sera pas
possible. Et chaque fois qu'il y aura une gêne ou quelque chose, on en tuera un, c'est tout.
Oh, vous croyez ?
Hein ?
Vous croyez que ça vaut la peine ?
Ah ben oui, évidemment.
Je
on n'a pas fait de cadeau à mon ami, je vais vous qu'on en fera.
Les preneurs d'otages demandent à la police une BMW, 1 million de francs chacun et un avion à leur disposition à Orly. Les policiers, eux, jouent la montre. À 21h10, les braqueurs demandent des sandwichs, de l'eau gazeuse et des cigarettes. La police leur livre. Ils veulent aussi parler au Premier ministre Jacques Chirac. Ça, c'est impossible. Ils veulent une voiture de sport et de l'argent. Ça, c'est possible. Le le commissaire Broussard, qui n'arrive pas à les faire céder, accède à leur demande. À 2h25 du matin, les deux malfaiteurs obtiennent la rançon de 2 millions de francs et une Alfa Romeo. Ils libèrent les deux hommes et emmènent avec eux les trois femmes toujours otages. Ils démarrent en trombe sous les cris de la foule des badauds qui crient « à mort, à mort ». Les policiers, pourtant nombreux, sont semés par les deux braqueurs qui trouvent refuge chez l'une de leurs petites amies après avoir libéré les otages. La photo des braqueurs fait la une de France Soir, la police est à leur trousse. Les deux hommes suspectés s'appellent Mohamed Badaoui et André Belaïch. Très vite, ils prennent la direction du Maroc, via l'Espagne, avec leur copine et leur butin. Puis ce sera l'Italie, la Grèce et la Turquie. La petite amie d'André Belaïch tombe enceinte, le couple rentre en septembre 76 à Paris et se cache à Neuilly-sur-Seine. « On ne viendra pas les chercher dans les beaux quartiers », se disent-ils. 1978, c'est le procès du hold-up de l'avenue de la République. Badaoui et Belaïch, toujours recherchés, sont absents. Ils sont condamnés par contumace à la peine de mort. 28 octobre 1980, place Victor Hugo, 16e arrondissement de Paris. Deux hommes à moto se font appréhender par une patrouille de motards de la police. Mohamed Badaoui dégaine un flingue et vise le policier. Tout va très vite. Un agent d'Adeste, qui se trouvait là par hasard, abat Badaoui de plusieurs balles. La fusillade fait la une des journaux, comme ici sur TF1.
La violence, comme nous en parlons souvent dans nos journaux. Trop souvent, direz-vous, mais comment l'ignorer? Encore aujourd'hui, tout un quartier en émoi, celui de la place Victor Hugo à Paris. Vers 15h, deux motards de l'escorte du président de la République, qui était en mission, repèrent quatre autres motards, des civils ceux-là, qui grillent un feu rouge. Ils leur font signe de s'arrêter, en vain, l'un des fuyards dégaine, tire, la fusillade commence. Un mort parmi les fuyards et un policier blessé.
Belaïch était présent en place Victor Hugo, ou pas, comme il était peut-être présent au braquage de l'avenue de la République. Bénéfice du doute, il sera acquitté des années plus tard. Mais une chose est certaine, ses amis Lacabane et Badaoui sont morts, tués par les policiers. Alors, plus question pour le gang de prendre autant de risques. Avec d'autres amis du quartier de Belleville, Belaïch, toujours recherché et en cavale, se promet de faire en sorte que plus personne ne meure jamais. Mai 1981, une nouvelle va changer la vie d'André Belaïch.
5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Bonjour Mitterrand, au revoir la peine de mort. Toujours condamné, André Belaïch a un poids en moins, mais plus beaucoup d'argent. Le 18 septembre 1981, avec deux amis, ils discutent. Comment se refaire? Financièrement, s'entend. Son ami Bruno Berliner a une idée. Pourquoi ne pas se faire les petits coffres de particuliers? Si les banques ne gardent plus beaucoup d'argent, les riches, si. Ils y mettent liasses, lingots d'or, bijoux. Et puis il a déjà essayé, c'est plutôt facile de fracturer ses petits coffres. Le seul problème, c'est qu'il faut faire ça en journée pour pouvoir rentrer dans la salle de coffre. Sinon, quasi impossible avec la porte blindée. Eh bien, il n'a qu'à essayer. Mardi 29 septembre 1981, Paris 16e, rue du Docteur Blanche. Retenez bien le nom de cette rue. Il est presque midi. Les trois braqueurs s'avancent vers une agence BNP. Dédé Belaïch est grimé en vieux monsieur. Robert Marguerite, dit Bichon, s'est mis une fausse moustache. Et Bruno Berliner, surnommé Sœur Sourire, est vêtu d'une veste kaki. Dans ce quartier bourgeois de la capitale, ils passent inaperçus, pénètrent dans la banque et sortent leurs armes calmement. Ils descendent à la salle des coffres et forcent 8 mini-casiers fichés bouche. Butin 11 000 francs, ce n'est pas énorme. Mais la méthode est validée, c'est un jeu d'enfant. Alors, ils récidivent dans l'après-midi, quelques rues plus loin, dans une agence de la Société Générale. C'est la naissance du gang des postiches. Robert Marguerite explique la répartition des rôles dans le documentaire Bichon, le gang des postiches, réalisé en 2013 par Bernard Bosfleg.
Moi, je faisais le gentil, eux, le méchant, ils tabassaient tout le monde. Tout le monde avait peur, je les récupérais, je leur disais, bon, ils sont fous, hein, vous avez vu, on va tous mourir et tout. Vous faites tout ce que je vous dis, de faire, vous le faites. Et il n'y avait aucun problème, quoi, ils m'écoutaient. Hein. Là, ça se passait bien, en général.
Oh, les mains, personne ne bouge. Pas derrière.
Jean, il est.
T'as une alarme?
Non.
Faites
la
tête. Non, tout de suite.
Profitons-en, on s'entraîne. Ça suffit pas de les ouvrir, les coffres.
Très vite, l'équipe s'agrandit. Patrick G, dit Pougache, ami d'enfance de Belaïch, rejoint le gang. Puis ce sera au tour de Michel Chelaoui et Jean-Claude Michka. Tous les gars de l'Est parisien, Belleville, Bagnolet, Montreuil, tous sont liés par l'amitié, tous sont tombés dans la délinquance à l'adolescence. Pour la plupart, ils sont issus de milieux populaires et leurs origines sont diverses, comme l'explique Michel Chelaoui à la journaliste Patricia Touranchot dans la série documentaire Le Magot, réalisée par Pierre Chassigneux et en 2022 est diffusée sur Canal+.
J'avais un séfarade, un ashkénaze, un bon gaulois, vraiment bon gaulois, Patrick G, un polonais et un manouche. Et après, on a mis, entre guillemets, nos talents en association.
Les Postiches, c'est l'association de braqueurs et de casseurs. Certains tiennent en joue le personnel et les clients, pendant que les autres vident les coffres. Le dernier reste collé aux ondes de la police pour vérifier qu'une patrouille n'est pas en approche. Dans le documentaire Belaïch l'insaisissable, réalisé par Marc Maouad en 2009, André Belaïch explique son expérience professionnelle.
Vous faites un hold-up, hein, vous le réussissez, vous êtes aguerri pour le second. Hein. Et pour le troisième, vous, si vous arrivez à survivre, vous en savez beaucoup plus. Hein. C'est un métier qui s'apprend sur le tas. Bon, à la fin, ça devient de la psychopathie. Hein. Le mec fait les choses en pensant que c'est quelque chose de naturel.
Les Postiches fonctionnent en vase clos et travaillent par campagne de braquage. Ils en enchaînent 2, 3, 4, 5 ou 6 en quelques jours ou en quelques semaines. Puis ils disparaissent, les poches pleines d'or, d'argent et de bijoux. Ils se répartissent le magot et chacun part où il l'entend. Michel Chelaoui apprécie les safaris en Afrique. André Belaïch part aux États-Unis et se prend en photo sur le pont de Brooklyn le lendemain d'un braquage. Et la bande se retrouve en hiver au ski et en été sur la Côte d'Azur. Robert Marguerie aime particulièrement l'Asie du Sud-Est. Il raconte qu'il aurait même pu s'installer là-bas avec l'argent des premiers braquages.
J'aurais pu vivre toute ma vie en Thaïlande avec l'argent que j'avais. Hein. Je suis redescendu en France et là, en France, bon, après, il y avait la cocaïne un peu, quand même. Cocaïne, des femmes, le champagne, les Ferrari, les Alpines, les Rolls, les... Enfin, c'était la... On jouait aux gendarmes au voleur.
Mais bien souvent, Bruno Berliner, qui lui n'aime pas voyager, sonne la fin de la récréation. Alors, toute la troupe rapplique et se rassemble dans une planque, souvent des chambres d'hôtel. Dans les jours précédant le braquage, ils volent les voitures nécessaires à leur opération et ils ont l'interdiction d'aller voir leur famille ou de sortir en boîte de nuit. Cela leur permet de rester discrets. En mars 84, ils entament une campagne de braquage qui va faire la une de tous les journaux.
Madame, monsieur, bonjour. Nous avons choisi de commencer ce journal en revenant sur un braquage de banque qui a eu lieu hier après-midi rue d'Alésia à Paris.
Le gang des Postiches a encore frappé hier, 4 jours après son coup d'éclat de la rue d'Alésia à Paris, un commando de 8 gangsters pourvus de fausses barbes et de fausses moustaches très fournies a vidé hier en fin d'après-midi 150 coffres d'une agence de la Société Générale à Passy.
Bonjour les Postiches, au revoir votre argent. Pour la 3e fois en une semaine, le gang des malfaiteurs grimés a encore frappé une agence bancaire.
Le gang des Postiches ne laisse personne indifférent. Et la presse en raffole. Le scénario est alléchant. Une bande de braqueurs qui ne tirent pas un coup de feu et qui volent dans les coffres des riches, oui, ça attire. D'ailleurs, c'est avec un certain sourire que l'un des clients d'une banque raconte son moment passé avec les Postiches.
Ça aurait fait combien de temps ?
Oh, ça aurait pas dire une heure et quart, peut-être moins, mais vous savez, le temps paraît long, hein. Dans les français littéraires, hein.
C'est... Il y avait des Postiches, ils étaient comment ?
Certainement, oui, je sais pas, des lunettes, des moustaches, des choses comme ça, oui.
Il y avait une atmosphère de chantier en bas, quoi.
Oui, à peu près, oui, je me croyais à l'usine, d'ailleurs, que... Ça change pas comme
ça. Mais quand ils sortent, c'est moins bon qu'un western ou qu'un film policier à la télé.
Bah, c'est dire, ça manque de whisky, quoi.
Mais les Postiches ne font pas rire tout le monde. Pour le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, il est temps de mettre fin à cette sinistre plaisanterie. Mais la police n'a aucune piste. Et ce n'est pas encore l'époque de l'ADN. Dans le milieu du banditisme, personne ne parle. Et du côté de l'État, comme souvent en période de violence, on pense à l'extrême gauche, presque par réflexe. On suspecte alors le groupe terroriste Action Directe. Les policiers Jean-Louis Huesca et Jean-Michel Roland l'expliquent dans le documentaire Le Magot.
On ne savait pas si c'était lié à du politique ou si c'était lié à vraiment du banditisme pur. Hein, voilà. Les postiches, on a cru qu'ils étaient là pour financer des mouvements terroristes, français ou étrangers.
14 mars 1984, Paris, place Beauvau, ministère de l'Intérieur. Gaston Defferre rassemble la police et les directeurs de banque. Le plan ballon va être mis en place pour stopper les postiches. Alors la technique de ce plan ballon a installé des capteurs sismiques dans les salles des coffres des banques. Le moindre coup de burin activera l'alarme reliée à la police. Comme un pied de nez au ministre et aux flics, les postiches braquent au même moment le Crédit Commercial de France, avenue de Villars, dans le 7e arrondissement de Paris.
Ils ont encore frappé. Qui ça ? Les postiches. Vous connaissez le scénario. Hold up cet après-midi à Paris, dans une agence du Crédit Commercial de France, avenue de Villars, dans le 7e arrondissement. Les gangsters étaient 6 ou 7. Ils portaient des perruques et des fausses moustaches. Ils ont neutralisé les clients et les employés. Ils ont forcé une vingtaine de coffres avec des burins et des pinces Monseigneur et ont pris la fuite in extremis.
En pleine confiance, les postiches remettent le couvert le jour même dans une agence du Crédit Lyonnais de Chennevières-sur-Marne. Mais cette fois, le rideau de fer se referme sur trois braqueurs du gang. Enfermés dans le sas de sécurité, ils sont prisonniers et la police n'a plus qu'à les cueillir. Berliner, Chelaoui et Belaïch sortent alors leurs flingues pour tenter de se libérer en tirant sur le rideau de fer. En vain. Et c'est Marguerite, à l'intérieur, à l'extérieur du sas, qui arrive à faire exploser de petites lucarnes à force de frapper contre la porte.
Moi, je tapais. Et chaque fois, en tapant, dis donc, un coron en verre, il s'est détaché de la banque qui était. Il est tombé, dis donc. Et ils sont sortis par le coron, là. Tiens, comment que ça est arrivé, ça, c'est impossible, ça.
Vite. Lorsque le verre, vite, c'est que ce bordel.
Les braqueurs s'échappent, le gang s'en tire, mais c'était chaud. La campagne de braquage est terminée. Le 10 mai, la photo des trois gangsters issus de la bande de vidéosurveillance est publiée dans Paris Match. Le gang part se cacher en France ou à l'étranger, Thaïlande, Sri Lanka, Pérou, Mexique, chacun sa destination.
Je ne sais ni où, ni quand, ni comment, ça finira. Mais pour le moment, tous les flics après moi sont lancés. Je ne me ferai pas pincer. Parmi les gangsters, il est dit que je suis de beaucoup le plus fort. Mes pyjamas sont faits de tussor. J'ai que des amis, mes ennemis sont morts. Et j'ai dedans en or, en première page, tous les journaux. Je fais du tapage, y a ma photo. Je suis l'ennemi public numéro un. Je me fous du lendemain. En attendant la chaise électrique, je prends du bon temps et je claque du fric. Je ne suis pas un garçon compliqué. Je trouve la vie ok. J'ai eu des tas de filles, des brunes et des blondes et des rousses et des teintes. Je peux pas m'arracher à leurs étreintes quand elles me disent je t'aime, je t'adore. Je leur réponds, je dors. Celle que j'attends depuis longtemps, le cœur battant à chaque instant. Je ne sais ni où, ni quand, ni comment visera à bout portant. Je ne sais ni où, ni quand, ni comment, ça m'arrivera comme ça, brusquement.
par l'amour un soir sans y penser. Voilà qu'on se fait, voilà qu'on se fait, voilà qu'on se fait pincer.
Aujourd'hui, le gang des postiches.
Affaires sensibles sur France Inter.
Le gang des postiches a encore frappé, le gang des postiches ou bien des malfaiteurs qui s'en inspirent. Ce matin à Suresnes, 6 hommes ont pénétré dans la succursale de la banque Hervé, ils ont maîtrisé les employés, ils sont descendus dans la salle des coffres, ils en ont fracturé puis dévalisé une soixantaine, ce qui leur a pris 3 quarts d'heure, et ils sont repartis.
Novembre 1984, Suresnes, banlieue parisienne. 8 mois après leur braquage de Chennevières-sur-Marne, revoilà les postiches, pensent les journalistes. En réalité, il s'agit d'une autre bande qui agit à la manière des postiches. Le gang fait des émules et ce genre de braquage se multiplie dans l'Hexagone. Les postiches, les vrais, eux, restent cachés. C'est un an plus tard qu'ils se rassemblent pour une campagne de plusieurs coups avec un objectif en tête, l'achat de 2 bateaux pour faire le tour du monde avec leur famille. Et pour cela, il leur faut 10 millions de francs. Novembre 85, Paris, 15e arrondissement. Les postiches ont loué plusieurs chambres au Flat Hotel. Ce jour-là, Michel Chelaoui se rend compte qu'il a oublié une arme sous l'oreiller. Alors il dit à Robert Marguerite et à Patrick G, il faut remonter dans la chambre d'hôtel. Chelaoui a peur qu'une femme de ménage tombe sur l'arme. Son intuition est bonne, mais il est trop tard. L'arme a été découverte, la police prévenue. Les braqueurs sont attendus par 3 policiers. Patrick G parvient à s'échapper, Robert Marguerite se fait serrer et Chelaoui se débat avec un policier et parvient à prendre son arme. Et il le blesse. Marguerite, menotté, parvient à descendre les 26 étages de l'hôtel et s'échappe. Il raconte la suite dans la série documentaire Le Magot.
Il y avait un taxi au milieu d'une rue. Alors je suis arrivé sur le taxi, le chauffeur du taxi il était dehors. Et je lui dis, écoutez, il m'est arrivé, on m'a fait une blague, on m'a mis des menottes dans le dos, on m'a pris des clés. Je sais pas comment faire, vous pouvez m'emmener? On m'a dit oui. Il m'a emmené chez lui, il a appelé un voisin, le voisin il est venu avec une scie et tout, et moi j'ai coupé les menottes. C'est super sympathique.
Robert Marguerite échappe à la police, mais Michel Chelaoui, lui, se retrouve en garde à vue. Personne ne se doute qu'il fait partie du gang des postiches. Il ne dit rien lors des interrogatoires. On ne balance pas dans le gang. Il est incarcéré pour tentative d'homicide volontaire. Malgré les risques, les postiches décident coûte que coûte de se relancer dans une campagne de braquage. En un peu plus d'une semaine, ils visitent plusieurs banques. Ils échappent toujours à la police et passent les fêtes de fin d'année tranquillement. 14 janvier 86, Paris 16e, boulevard Gouvion-Saint-Cyr, agence de la Société Générale. Coffre après coffre, les postiches ramassent billets, lingots, pièces. Et ils fêtent ça au restaurant. Petit digestif et rail de coke en fin de repas, et c'est reparti pour un tour. Allez, dans le 16e, lance-berlineur. Encore, s'exclame Marguerite, pourquoi pas aller taper une banque en banlieue? Ça serait plus sûr. Mais les braqueurs prennent la direction des quartiers riches de Paris. Rue du Docteur Blanche, souvenez-vous. C'était l'adresse de leur premier braquage. Cette fois, c'est un Crédit Lyonnais. Tout se déroule comme prévu. Marguerite et Mishka s'occupent des clients pendant que G. Berliner tape les coffres au sous-sol. Dans l'après-midi, les forces de l'ordre sont alertées par le plan Ballon, ce fameux plan Ballon. Les gros moyens sont développés. Près de 70 policiers dressent un périmètre de sécurité autour de la banque. Car il s'agit de laisser sortir les braqueurs pour les prendre en filature jusqu'à leur planque et les interpeller sans mettre en danger les passants.
À tous, sapeurs, individu seul en tenue de curé, forte corpulence, cheveux courts, moustache.
Les pontes de la BRB, de la BRI, Raymond Mertz et Claude Cancès sont sur place. 2 braqueurs commencent à sortir vers une première voiture, les policiers les laissent filer. Un autre groupe de gangsters sort à son tour, mais dans la direction opposée. Arrivé à hauteur de leur voiture, l'un des braqueurs fixe 2 hommes dans un véhicule. À l'intérieur, Raymond Merz pense être détronché, c'est-à-dire reconnu. Il s'explique dans la série documentaire Le Magot.
Ils nous ont détectés, et c'est là, notamment, j'ai été estimé que c'était impérieux pour moi, notamment, d'intervenir. J'ai tiré 3 coups de feu en direction d'un des malfaiteurs.
Dans la rue René Bazin, les premiers braqueurs sortis de la banque entendent des coups de feu. Et ils remontent la file de voitures à pied. Observent à l'intérieur, ils cherchent des flics. Un policier de la BRB sort alors de son véhicule et s'ensuit un échange de coups de feu. Berliner et les 2 policiers s'écroulent, morts. Pendant ce temps, l'autre braqueur, vêtu d'un loden vert, prend un policier en otage et se dirige vers le lieu de la première fusillade. Là-bas, les 2 gangsters ont été interpellés. L'un est blessé, touché par des balles, l'autre est en train d'être menotté. Et c'est à ce moment qu'arrive le braqueur au loden vert avec un policier en otage. Il leur dit « Libérez-le ou je le tue ». Après un moment d'hésitation, les policiers libèrent le braqueur. Les 2 gangsters prennent alors la fuite avec 2 otages policiers dans un véhicule avec sirène. Ils obligent l'un d'eux à conduire tête baissée pour qu'ils ne reconnaissent pas leur visage. Ils le forcent aussi à rouler à vive allure, sans causer d'accident. L'un des otages a le malheur de lever les yeux vers l'un des braqueurs qui lui casse les dents avec un coup de crosse dans le visage. Les 2 postiches sont ultra violents. L'un d'eux se met à tirer sur la voiture de police qui les suit. Et puis l'inévitable arrive, c'est l'accident. Les preneurs d'otages se mettent en recherche d'une nouvelle voiture. C'est à ce moment-là qu'un des policiers prend la fuite, l'un des postiches lui tire dans le dos. L'autre otage réussit à s'échapper, les 2 braqueurs, eux, repartent dans une autre voiture. Le bilan de ce braquage raté est lourd. 1 policier et 1 braqueur sont morts, et cela fait la une du journal de France Inter.
Au sommaire ce soir, hold-up sanglant dans le 16e arrondissement de Paris, 1 policier et 1 gangster tués à la sortie d'une banque, 1 deuxième policier grièvement blessé, probablement le gang des postiches.
Au soir du 14 janvier 86, 3 membres du gang des postiches sont en fuite, André Belaïche et Patrick G., les 2 preneurs d'otages. Jean-Claude Michka, lui, a profité de la confusion générale lors des 2 fusillades pour s'échapper calmement. Bruno Berliner, lui, est mort. Quant à Robert Marguerite, il est blessé et arrêté. Les policiers ont hâte de l'interroger. Mais il se moque clairement d'eux, en affirmant connaître aucun de ses complices et en donnant seulement 2 noms, Lino et Aldo, soit Lino Ventura et Aldo Macchione dans le film de Claude Lelouch « L'aventure, c'est l'aventure ». Dans les rangs de la police, on estime que le commissaire Raymond Merz a fait foirer toute l'opération en jouant au cow-boy et en tirant sur les postiches. L'un de leurs collègues est mort, Jean Vrinst. La question de l'hommage qui doit lui être rendu pour ses funérailles se pose. En effet, le lendemain, il devait être interrogé dans une vaste affaire de flic ripou. Toujours est-il que les policiers tiennent Marguerite. Et Marguerite, c'est lui qui s'était échappé, menotté du flat hôtel. Les 2 enquêtes sont donc reliées. Et les enquêteurs perquisitionnent l'une des planques des postiches rue de Belleville. Ils ont maintenant l'identité de plusieurs membres du gang, notamment Michka et G. Michka prépare une planque hier en banlieue parisienne et cache une partie du butin dans les murs. Il part ensuite en cavale avec Belaïche et G, direction l'Italie. Ils franchissent les Alpes en ski, rocambolesque. Réfugiés à Rome, ils se pensent tranquilles. D'autant que pour les policiers, le nouveau ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, qui veut terroriser les terroristes, la priorité est au groupuscule d'extrême-gauche, Action Directe. Et puis lui aussi Thierry Paulin, le tueur de vieilles dames, et le grêlé. Août 86, André Belaïche et Patrick G. sont interpellés par la carabinier lors d'un banal contrôle routier. G. prend la fuite, Belaïche est arrêté, condamné à 1 an de prison par la justice italienne pour délit routier et envoyé à la prison romaine de Rebibbia, réputée pour sa sécurité. Dans sa cellule, André Belaïche n'a qu'une obsession, sortir. Il écrit à Jean-Claude Michka et prépare un plan, une évasion par hélicoptère. Le 24 novembre 1986, Michka et un autre complice menacent le pilote d'hélicoptère de la Croix-Rouge. Il l'oblige à décoller, direction Rebibbia. L'évasion fait la une du JT d'Antenne 2.
À l'hôpital de San Camillo à Rome, il y a toujours un hélicoptère prêt à décoller pour aller secourir les blessés de la route. Le pilote est là avec son fils de 10 ans. Deux hommes arrivent. Tu décolles ou bien on lui fait la peau à ton fils. 4 minutes plus tard, l'hélicoptère se pose sur le terrain de sport de l'une des prisons les plus sûres d'Italie, Rebibbia. Les gardiens ont un moment d'hésitation. Il y a une croix rouge sur l'hélicoptère. Il s'agit sans doute d'évacuer un détenu. Deux hommes se hissent dans l'hélicoptère. Un troisième n'y arrive pas, tant pis pour lui.
L'homme que Belaïch a emmené avec lui dans l'hélico, c'est Gianluigi Esposito, un braqueur italien lié à l'extrême droite. Mais une fois en vol, aucun plan n'est prévu. L'appareil se pose sur un terrain de foot en plein match, proche des studios de la Cinecittà. Les spectateurs, qui pensent à un tournage de film, applaudissent. Les 4 complices prennent ensuite la fuite dans une voiture volée, se cachent quelques jours et partent en direction de hier dans leur planque de la banlieue parisienne. Dans le refuge romain des Postiches, les policiers italiens découvrent un papier avec des inscriptions codées. Ils parviennent à le déchiffrer rapidement grâce au service secret et transmettent l'info à leurs homologues français. Il s'agit d'une adresse en France dans la banlieue parisienne. Une filature est mise en place. Très vite, les policiers français en sont sûrs. Ils ont logé les Postiches ailleurs. L'ordre de passer à l'assaut n'est pas donné tout de suite. Le 11 décembre 1986, les braqueurs partent cacher des lingots d'or dans un cimetière à côté d'une tombe abandonnée à Fontenay en Parisie, c'est dans le Val d'Oise. Le 13 décembre 1986 au matin, un large périmètre de sécurité est déployé autour de la maison. Les unités du raid sont prêtes à intervenir. Top départ! Les forces de l'ordre forcent les portes de la maison et balancent des gaz lacrymogènes surpuissants. Les Postiches, pourtant armés, ne peuvent pas répliquer. Quasiment asphyxiés, ils sortent un à un et sont interpellés. Antenne 2 rend compte de ce coup de filet.
Madame, monsieur, bonsoir. Un très gros coup de filet pour la police ce matin à hier dans la région parisienne. 4 truands, dont les 2 qui s'étaient évadés en hélicoptère le mois dernier d'une prison italienne. Les 4 hommes ont été arrêtés par les commandos de la police. Il y avait aussi parmi eux l'un des malfaiteurs soupçonnés d'avoir abattu un policier après le hold-up de la rue du Docteur Blanche à Paris. C'était au mois de janvier dernier. Une bande qui serait d'ailleurs à l'origine du fameux gang des Postiches.
19 mars 1996, cour d'assises de Paris. Après une très longue instruction, c'est l'ouverture du procès des Postiches. Entre-temps, tous ont été libérés de détention provisoire. Ils comparaissent donc libres. Ce jour-là, 3 anciens membres du gang sont jugés, près de 10 ans après leur arrestation. Patrick G, lui, a disparu des radars depuis sa libération. Sur le banc des accusés, il y a André Belaïch, qui s'est réinséré en vendeur de disques d'occasion. On retrouve aussi Jean-Claude Michka et Robert Marguerite. L'avocat ce dernier, maître Louis Bord, s'exprime devant les caméras de France 3.
C'était un clan, c'était des gens qui étaient d'un certain côté courageux, qui n'avaient pas peur de se prendre des balles ou de tirer, c'était des cow-boys. Vous verrez les cow-boys au cours de l'audience, ils sont fatigués les cow-boys, ils sont très fatigués. Ils ont en quelque sorte des dents élimées, ils n'ont plus les dents qu'ils avaient avant, parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont fatigués.
Jeudi 4 avril 1996, Jean-Claude Michka et Robert Marguerite écopent d'une peine de 12 ans de réclusion criminelle pour 7 braquages. André Belaïch s'en sort avec 8 ans de prison pour association de malfaiteurs, évasion en hélicoptère et recel de vol. On n'a pas pu prouver qu'il avait participé au braquage. Patrick Jay, condamné d'abord par contumace à 30 ans de prison, en prend 15 après la fin de sa cavale, en 2003. Et puis les Français oublient le gang des Postiches. Mais leur histoire trouve un nouvel écho en 2004, lorsque la journaliste Patricia Tourancheau révèle que le tueur en série Michel Fourniret a vécu pendant une 15aine d'années grâce au butin des Postiches enterrés dans le cimetière de Fontenay en Parisie, 2 jours avant leur arrestation.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques. Somme toute, ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur et ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano à tout casser. Je connaissais ce truc, c'était le Blue Rondo à la Turtève. Groubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond. Je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y a un quart de flic au coin de la rue. Je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu filmes, me dit-elle. Descends pas, sauve-toi, parlez-toi. Bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Encore les flics, vite le fric. Et puis l'escalier de service, 4 à 4, 1, va. Zista s'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colisée. C'était la cohue. J'en peux plus, j'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Ah le temps, la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie. Sans coup de pont d'une courge, je descendis jusqu'en bas. Et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue, je ne le savais plus. Mais tant pis, je suis sorti. Et tout de suite, je les ai vus. Quatre flics au bout de la rue. Pas de panique, j'ai reconnu le bar du living. J'y suis entré.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le gang des postiches. Notre invitée, Patricia Touranchot. Bonjour.
Bonjour.
Journaliste, autrice de deux ouvrages, Les Postiches, un gang des années 80, publié chez Fayard, et Le Magot, édité, lui, au Seuil. Vous avez également adapté cet ouvrage en récit documentaire, Le Magot, diffusé sur Canal+, et dont nous avons pris plusieurs extraits pour ce récit. D'abord, avec un chiffre pour commencer peut-être. On estime à combien, si on peut estimer, le montant du butin total des postiches durant toute leur carrière, si j'ose dire.
J'ai essayé de calculer, mais franchement, à partir des synthèses de la brigade de répression du banditisme, on peut dire que sur les 27 gros braquages recensés par la BRB entre 81 et 86, ils ont pris à peu près 500 millions de francs lourds de l'époque, en lingots d'or, en pièces d'or, en billets de banque, etc. Mais je pense que c'est largement sous-estimé. Et eux vous diront, les postiches, qu'on exagère parce que le préjudice sur les bijoux en or, en tout cas, qu'ils ont volés, eux, ils ne peuvent pas les revendre le montant estimé de ces bijoux-là. Ils sont obligés de les vendre à 10 ou 15% de leur valeur. Oui. Voilà, mais c'est énorme. De toute façon, c'est énorme.
Alors, est-ce qu'on connaît aujourd'hui tous les membres des postiches ? Est-ce qu'il y en a d'autres que ceux cités pendant ce récit ? Peut-être sont-ce les principales figures, mais peut-être qu'il y en avait d'autres.
Ouais, ce sont les principaux là dont on a parlé, qui sont connus de la police, mais il y en a quelques-uns qui ont échappé, quelques-uns qui n'ont participé qu'à quelques braquages, mais il y en a eu beaucoup qui ont, parce qu'à un moment donné les postiches étaient quand même 10 ou 12 pour braquer les banques, et donc évidemment là on a parlé un peu des pionniers, on en parlait de 6, il y en a 6 autres qui sont pas démasqués.
C'est ça. Alors, on a parlé d'un axe Belleville-Bagnolet-Montreuil. Ils se sont connus jeunes, dans les mêmes quartiers. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On les a entendus parler, on les entend dans ce récit, comme on voit dans le documentaire, bien sûr.
Mais oui,
bien sûr. Donc, qui sont ces gens ? Comment on pourrait les qualifier ? Est-ce qu'ils se ressemblent ? Est-ce qu'ils sont très différents ? Qu'est-ce qui dégage, finalement ?
À un moment donné, Michel Chélaoui le dit très bien, ils sont déjà très métissés. Il y a des Gaulois, il y a des Kabyles, il y a des Gitans, c'est très mélangé. Et la plupart sont quand même des fils de prolos ou des fils de pauvres. Belaïch, il a grandi dans la rue de Belleville. Il est d'origine, c'est un Tunisien juif. Et il a grandi dans la rue parce qu'il vivait dans une cave avec sa famille nombreuse et ses parents, donc c'était pas possible. Voilà, la plupart. Il y a que Bichon, peut-être, qui était un peu un blouson doré, dont le père était fondeur à Bagnolet, et qui, lui, rêvait d'être un pilote de course. Voilà, mais voilà, c'est un groupe très, très mélangé, et qui s'associe sur la volonté de faire de l'argent. Voilà, pour flamber, en plus. Ils n'ont pas investi, ces idiots, quoi.
Mais ils le disent, d'ailleurs.
Au milieu.
Ouais, ils disent Ferrari, jolie fille, tout ça, quoi, champagne. Ils le disent.
Mais oui, et les voyages. Hein. C'est ça qui est sympathique avec les postiches. Hein. C'est leur goût du voyage. Hein. Ils ont fait le tour du monde. Hein. Marguerite, il a vraiment fait le tour du monde. Il voulait s'installer en Thaïlande. Il a fini, d'ailleurs, en Thaïlande. Hein. Il y est en ce moment-là.
Ouais. Ils sont masqués, mais ils sont sans phare. Parce qu'ils disent tout, quoi, en gros.
Un peu. Bon, ils disent pas tout. Hein,
non,
c'est
pas
films,
tout, mais bon. On peut dire que le 14 janvier 86, tout a foiré, hein, à la fois le braquage, mais également l'opération policière. Certains policiers ont reproché à leur chef, Raymond Merz, d'avoir tiré trop tôt sur les postiches et d'avoir fait capoter toute l'opération. Expliquez-nous ça.
Ben, c'est-à-dire que la BRB et la BRI qui se déploient sur place autour de la banque, ils sont 67 à bord de 31 véhicules, ils ont pour consigne de la part du chef du dispositif Claude Cancès, qui est le commissaire patron de la brigade anti-gang, hein, de la BRI, ils ont pour consigne surtout de ne pas interpeller à chaud ces voyous-là. Parce que quand les braqueurs sortent d'une banque, ils sont chauds, il y a un risque qu'ils emmènent avec eux des employés en otage ou des clients, ou qui prennent des passants en otage, c'est trop chaud. Donc la consigne, c'est vraiment de les prendre discrètement en filature pour aller jusqu'à leur planque et les coincer dans un endroit plus calme. Et le problème, c'est que le commissaire Raymond Merz, qui est quelqu'un connu pour un espèce de sanguin, qui se considère en état de légitime défense permanent. Et c'est d'ailleurs ce qu'il va nous dire dans notre série documentaire à Pierre Chassagneux et à moi, Le Magot, qu'on peut voir en replay sur Canal, vous saurez tout dedans. Et là, Merz, si vous voulez, il se croit donc reconnu, comme vous l'avez dit, détronché, ok. Mais il bondit de la voiture et il tire dans le tas, alors même que Patrick Gé et Robert Marguerite, qui sont en face de lui, n'ont pas d'armes pointées sur lui, et ils les ont rangées, leurs armes. Donc c'est une faute, il n'est pas en état de légitime défense. Et Claude Cancès, dans notre série Le Magot, lui dit « On a eu tort, on n'aurait pas dû intervenir, on n'aurait pas dû sortir de la voiture, même si on était reconnu, j'aurais dû dire au chauffeur « file, file, file » et on se barre. Et on arrête l'opération. Mais Merz, cow-boy, et c'est pas la première fois, il fonce dans le tas, il tire sur les mecs, du coup ça déclenche, les autres braqueurs entendent les fusillades, et il y a un mort côté police, et il y a un mort côté postiche, et tout foire. Et ensuite, les deux braqueurs, effectivement, qui prennent en otage des policiers pour s'enfuir, bah là, il y a du grabuge, c'est pas joli, joli. Et franchement, on a les deux otages dans la série documentaire, Ulmer et Roland, qui sont dans cette bagnole avec deux postiches, qui se font fracasser les dents, tirer dans le dos, malmenés. C'est atroce. Mais le début, le déclencheur, jusqu'à présent, les postiches, ils n'ont jamais tiré. Ils n'ont pas blessé, ils n'ont pas tué. Même si parfois, quand ils rentraient dans les agences, ça pouvait être un peu violent, et eux le disent, pour tenir en respect l'agence, tout de suite, soit ils donnaient un petit coup de crosse au directeur d'agence pour s'imposer, mais ça n'allait pas plus loin. Mmh. Et là, ce jour-là, à cause de l'intervention inopinée et dramatique de Raymond Merz, tout foire. Et c'est violent d'un bout à l'autre.
Patricia Tourangeau, ne quittez surtout pas. On se retrouve dans 2 ou 3 minutes. On écoute Hamza, Ma Réalité. Un tas de bénéfices, donc j'y soupçonne. Mais la caisse est pédia, va te consommer. Je démarre, c'est le chèque en vol, le risque. Oh non, non. J'ai envie d'être live, ça. Je t'avais seulement quand je tease la night. Elle sort les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night. Wow, wow, wow. J'ai tramé et ne tourné et ne. Si tu roules avec un N, c'est que toi même t'as un N. Wow. Un homme qui pense à pouvoir un jour monter sur ma tête. C'est un homme qui se trouve depuis un putain de maman sous mes pieds.
Je reviens en marmé, j'ai des billets violets mauves. Mais ta petite tenue rose, baby daddy's coming home. Tout un tas de promesses dont je me suis jamais fait. On est pour le gain car on n'a jamais lieu. Hey, oh, big step, pour que tout s'arrête, faudrait que Dieu m'arrête. Et depuis le temps que j'entends ces voix résonner dans ma tête. Fuck tous ces fils de pute et ceux qui roulent avec eux. Un tas de bénéfices, donc je suis soupçonné. Belle que ces bitches elles vont te consommer. Je te remercie de chaque fois pour le risque, oh non, non. J'ai pris cette life sale, sale, sale. Je te veux seulement quand je tease la night. Elle sort les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night, wow, wow, wow. Je me souviens de toutes ces nuits à regarder le ciel en me demandant si quelqu'un m'entendait. En vrai c'est tout ce que j'attendais, la vie de ma mère. J'ai grandi dans la violence, avec un joint de peu j'ai appris à la romance. À 200 dans ma tête, celle dans ma chambre. Ils vont te laisser tomber quand ils n'auront plus rien à prendre. Je vais venir avec un métal, on verra si je suis tendre. J'ai plus grand chose à dire, encore moins de choses à prouver. Ceux qui veulent me nuire, ils savent où ils peuvent me trouver. Ce n'est que ma réalité, B-O-B-O-X réalité. Un tas de bénéfices, donc j'ai soupçonné. Belle que cette bitch, elle va te consommer. Je t'ai marcé de chacun pour le risque, oh non. J'ai pris cette life sale, sale, sale. Je te veux seulement quand je tease la night. Sur les métaux pour la maille, oh my. J'ai pris la night, wow, wow, wow.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le gang des postiches, Patricia Touranchot. Il y a certains braqueurs ou des tueurs en série, enfin des gens qui rendent fous les policiers, parce que les policiers sont en échec, n'arrivent pas à mettre la main dessus. Ça peut aller aussi jusqu'au ministre de l'Intérieur, qui n'en peut plus. Là, c'est le cas avec Gaston Defferre. Et est-ce que pour par rapport aux postiches, la BRB, la BRI, enfin tout ce que les flics de France comptent, est-ce qu'ils étaient sur les dents? Est-ce que c'était pour eux vraiment ce gang des postiches un vrai combat ou alors un combat parmi d'autres?
Ah non, c'était un vrai combat. Les postiches ont fait tourner en bourrique d'abord la BRB, hein, la Brigade de répression du banditisme, qui en fait se contentait, enfin se retrouvait totalement impuissant, à lister sur des synthèses les braquages des postiches et surtout à faire l'inventaire de chaque petit coffre client avec les particuliers qui les louaient pour voir le préjudice. Et donc pendant qu'ils faisaient ça, ils n'avaient pas le temps d'enquêter. Donc ils les ont fait tourner en bourrique et plus tard, la brigade criminelle qui commence l'enquête rue du Docteur Blanche, donc en janvier 86, et qui est monopolisée par ces postiches qui leur échappent et qu'ils ne vont retrouver qu'après l'évasion de Rome. Voilà. Et d'ailleurs, ils vont finir par identifier Belaïche très tardivement, en fait, très tardivement. C'est un truc qui les rend maboules, les policiers, parce qu'en plus, comme vous l'avez dit, ils ont fait des émules. Donc il y a d'autres équipes qui se mettent à braquer sur le mode postiche, donc les flics en fait ils savent plus où donner de la tête et ils savent plus qui est qui là-dedans.
Alors comment étaient-ils ressentis ces membres du gang des postiches par la population? Est-ce qu'on se disait, ah, c'est des robins des bois, ils tuent personne, finalement c'est assez marrant, ou est-ce qu'au contraire on avait affaire à des gangsters, et des gangsters bah, ça peut tuer, la preuve, hein, ça a fini comme ça.
Ouais, ça finit mal, ça finit dans le sang, mais pour les gens, enfin, ils avaient une cote incroyable en France, les postiches. Non, franchement, parce que même, vous avez passé un extrait, il y a d'autres clients, enfin, d'autres otages, en fait, hein, des postiches, qui se marrent franchement, quoi. Ils n'ont pas passé un bon moment, on ne peut pas dire ça, mais en même temps, ces types-là les font marrer. Et en France, chaque braquage des postiches est une espèce d'exploit. En 83, par exemple, ils vont quand même braquer rue Clément Marot à côté d'un commissariat. je veux dire, c'est, ils sont gonflés, ils sont culottés, et leur déguisement, enfin tout, fait plutôt marrer la France.
Ouais. Et plus c'est gros, plus ça passe, quoi.
Ben,
il faut des trucs audacieux, et puis ça marche.
Mais en même temps, c'est astucieux, parce que le fait de se déguiser en bourgeois pour aller braquer les banques des beaux quartiers, ben ça marche, en fait.
Ah, puis le côté c'est contrôle fiscal au lieu de hold-up, ben forcément, voilà. Ça fait sourire, hein. C'est assez bien trouvé.
Voilà, puis effectivement, ils surfent aussi sur l'époque. Ils savent qu'avec l'arrivée de Mitterrand et le gouvernement socialo-communiste, voilà, les riches, les bourgeois, les patrons, les commerçants, ils sont menacés d'être taxés par le fisc. Donc eux, ils se disent, c'est là où les riches vont mettre leur fric, c'est là qu'on va taper. Donc, quelque part, à part les gens, effectivement, qui se font dépouiller de fortune, de lingots d'or qu'ils ont mis comme ça, sans les déclarer dans les coffres, les autres se marrent. La population se dit, finalement, ils sont malins, ces types-là.
Ouais. Alors, il y a cette évasion spectaculaire. Ils sont malins, effectivement. Les Italiens n'en reviennent pas, donc c'est l'évasion en Italie. Ils appellent ça une évasion à la française. Effectivement, André Belaïche emmène un autre détenu avec lui, donc Luigi Esposito. Mais ouais. On sait pourquoi ?
Il y a deux versions. La police criminelle française pense que si Belaïche emmène Gianluigi Esposito, qui est donc un braqueur d'extrême droite, c'est pour faire diversion.
Voilà. D'accord.
Parce que lui, Belaïche, est plutôt d'extrême gauche, anard, etc. Mmh. Les postiches, eux, m'ont expliqué que si André Belaïche choisit Esposito, c'est parce qu'il il aurait un brevet de pilote d'hélicoptère et que ça peut servir au moment où il s'arrache en hélicoptère avec de la Croix-Rouge, mais aussi il pourra servir à arracher Robert Margueri de la prison de la santé en hélicoptère plus tard.
Ça paraît plus crédible, je trouve, la deuxième hypothèse, non ?
Moi aussi, puis elle est plus tentante, mais voilà, il y a les deux.
Eh oui, elle est plus tentante. Ils se sont embrouillés à la fin, à cause d'Imago disparu. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de leur carrière, entre guillemets ?
C'est-à-dire que avant de se faire arrêter en décembre 86, ils ont un peu disséminé le butin qui se trouvait dans leur planque à hier, en se disant qu'il ne faut pas laisser tous nos œufs dans le même panier. Et ils ont enterré une cinquantaine de kilos d'or donc dans le cimetière de Fontenay-en-Parisis. Et si vous voulez, une fois que la police les arrête et démonte cette maison d'hier en piquant tout le butin, eux se rassurent, ils sont en prison, mais ils se disent « mais c'est super, on a notre trésor qui est planqué dans le cimetière ». Sauf que, entre-temps, par un incroyable concours de circonstances…
Je vous vois venir, allez-y.
Ben voilà, le tueur en série pédophile des Ardennes, Michel Fourniret, qui va s'emparer de ce trésor, alors qu'il n'a rien à voir avec le monde des postiches. Donc vous imaginez… qui est le premier libéré, quand les postiches sont libérés en provisoire, les uns après les autres, qu'est-ce qu'ils font ?
Ils vont chercher le magot.
Ben voilà, et il n'y a plus rien dans le cimetière. Il n'y a plus rien. Pas un jaunet, disait Mishka. Et le pauvre Mishka. Enfin, bref, Mishka en devient totalement malade. Hein, parce que Mishka, c'était un garçon d'origine polonaise d'Aubervilliers qui avait été plein aux as avec les postiches et qui, se retrouve chez sa maman Aubervilliers, pauvre comme Job, et qui est au RMI et qui a pu un rond. Donc lui, il va soupçonner Patrick Jay, qui était le premier libéré par le juge, en disant. C'est pour financer sa cavale, ça coûte cher une cavale, il a dû piquer le truc.
Bah oui.
Et puis après, il soupçonne Belaïche, parce que Belaïche a monté des boutiques de disques et de DVD dans Paris, 4 boutiques. Donc Mishka et Marguerite, d'ailleurs, qui le dit dans notre série Le Magot, il soupçonne Belaïche, comment il a pu monter ses boutiques.
Bah oui,
et donc ça crée une ambiance pourrie.
D'accord. Vous avez cité plusieurs fois le documentaire Le Magot. Vous avez bien raison. Donc, il est visible sur Canal+, la plateforme Canal+, c'est ça ?
Oui, en replay.
Très bien.
Dans les documentaires.
Et puis, mais vous le savez peut-être aussi, jeudi, nous raconterons dans cette émission Affaires Sensibles la femme de Fourniret, figurez-vous.
Ah,
vous voyez,
très bien. Hein, très bien.
Voilà.
Tout est lié.
Tout est lié. Merci, Patricia Toranchot. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
C'est C'était Affaires Sensibles aujourd'hui de Gang des Postiches, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Fabrice Desmarais.